journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Emmanuel Macron, guest star de la Maison des associations de Bourg-de-Péage dans la Drôme. Débat surprise avec le président hier soir, qui n'a pas fini de mouiller la chemise et qui reprend 3 points dans notre baromètre mensuel Odoxa. Analyse signée Yaël Gauz dans un instant. Quand la banlieue ne débat pas, très peu de réunions organisées dans les quartiers populaires, trop de frustration, trop d'espoir déçu, disent certains élus. Lui avait vu venir la crise depuis 5 ans, il parlait déjà des Français oubliés, un historien à ce micro dans 20 minutes, Nicolas.
Oui, il s'agit du professeur au Collège de France, Pierre Rosanvallon. Il participe également à un livre collectif intitulé « Le fond de l'air est jaune », c'est aux éditions du Seuil. Il est donc l'invité du grand entretien 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
À la une également, situation étrangement calme à Caracas au lendemain de l'autoproclamation présidentielle de Juan Guaido au Venezuela. Les centres d'hébergement pour étrangers vidés en Italie. Et Luc Capouille, à 1h30 du match de sa carrière à Melbourne face au numéro 1 mondial Novak Djokovic pour une place en finale.
France Inter.
Transformer la colère en solution et un président acculé en bête de scène capable de tenir son public pendant des heures. Le grand débat national lancé par Emmanuel Macron, c'est un coup à double détente avec ses rendez-vous et ses surprises comme hier à Bourg-de-Péage dans la Drôme hier soir. Devine qui vient débattre à la Maison des associations. Le président, invité de dernière minute, qui a tenu 3 heures devant 250 personnes qui n'étaient pas venues pour ça au départ et qui ne l'ont pas ménagé sur son passé de banquier chez Rothschild. Par exemple.
Il se trouve que j'ai eu une vie avant, que j'ai... Ben oui. Et j'ai changé après de vie. Et j'ai été élu par les Français. Et moi, je serais ravi qu'il y ait beaucoup de gens qui ont une vie, d'entrepreneurs ou ailleurs, s'engagent dans la politique.
Voilà. Très bien.
Ça.
Merci.
Et puis après, il y a des gens qui pensent comme ça, que, avec d'ailleurs des, je dois dire, des relents de choses que j'aime pas beaucoup, parce que derrière, ça s'apprendrait à la Banque du Pont, il y aurait certainement moins d'arguments, et ça me plaît pas dans votre réflexion. Il y a des gens qui vous mettent comme ça un poinçon. Eh ben, c'est tout. Vous savez, je suis pas un héritier. Il y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Si j'étais né banquier d'affaires, vous pourriez me faire la leçon. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. C'est pas le cas. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers. En attendant, vous n'aurez pas de prêt sans banquier. C'est comme ça.
C'est comme ça. Le président égal à lui-même pour cette troisième séquence débat. Elle n'était pas à l'agenda cette fois. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour.
On pensait qu'Emmanuel Macron en avait fini avec ses débats marathon. Ben, on s'était trompé.
Oui, il invente la campagne permanente avec ses effets de surprise, ses coups de com'. Celle des européennes attendra. Priorité à la campagne du grand débat avec un président, nous disent ses proches, qui avance en marchant, teste des formats, ajuste, sans savoir encore où le vent du grand débat le portera. L'échange surprise de Bourg-de-Péage rappelle furieusement l'épisode Whirlpool d'avril 2017, quand, défié par Marine Le Pen, il était allé affronter, mégaphone à la main sur Facebook Live, les sifflets des ouvriers. On est dans le même registre, une opération gardée secrète, un commando dans la confidence, un point de chute préparé par le drômois de l'étape, le ministre Didier Guillaume. Et le petit plaisir, non dissimulé à la fin par ses équipes, d'avoir baladé le patron de la droite, Laurent Wauquiez, tout heureux de dénoncer un président dans sa bulle et qui ignorait tout de ce qui allait suivre. Retour à l'esprit de la Grande Marche, à l'itinérance testée en novembre que la crise des Gilets jaunes avait abrégée.
Emmanuel Macron au charbon, manifestement, ça paye. Yaël, il reprend des points dans notre baromètre Odoxa pour France Inter.
Vous le disiez, plus 3 points en un mois, tendance à la hausse déjà observée par d'autres instituts. 30% de sondés qui disent voir en lui un bon président. Quand la cote de ses opposants recule, moins 5 pour Marine Le Pen, moins 3 pour Mélenchon, Laurent Wauquiez scotché à la 17e place du classement. Parler d'un retournement de l'opinion serait prématuré, mais en Macronie, plus question de reperdre le terrain reconquis, la REM se réorganise, l'Élysée intègre de nouveaux conseillers et les députés marcheurs sont dans les gymnases en s'émancipant aussi du Parlement. Ça foisonne, ça bouillonne, mais Emmanuel Macron n'est plus candidat, il gouverne et à la fin des fins, il faudra bien trancher sur ce débat, exercice hautement plus périlleux qu'une tournée questions-réponses sur les routes de France.
Yaël Gauz, chef du service politique de France Inter, ça foisonne, ça bouillonne, disiez-vous apparemment, un nouveau secrétaire d'État va venir en enrichir le gouvernement. Ce matin, le député LREM des Hauts-de-Seine, Adrien Taquet, serait nommé secrétaire d'État à l'enfance, nous disent nos confrères de France Info. Et de ce débat, hier soir, outre la posture d'Emmanuel Macron, on retiendra qu'il n'est pas question d'augmenter le SMIC de 100 euros, qu'en revanche, il veut bien supprimer la taxe d'habitation pour tout le monde, qu'il milite pour une taxation des contrats courts et qu'il ne sera pas possible de supprimer complètement le glyphosate d'ici 3 ans, comme il s'y était engagé. Et parmi les propositions fortes des Gilets jaunes, la suppression de la TVA pour les produits de première nécessité de plus en plus évoquée. France Inter la passe au crible ce matin, cette proposition. C'est Hélène Filly qui nous donne des clés pour comprendre.
Il existe déjà 4 taux de TVA. Le taux normal à 20%, l'intermédiaire à 10% pour le transport, la restauration, les travaux de rénovation des logements, 2,1% pour les médicaments remboursés et la presse. Et puis il y a le taux réduit à 5,5% sur les produits de première nécessité, le pain, le sucre, les légumes, mais aussi les abonnements au gaz et à l'électricité. C'est sur ces produits que les Gilets jaunes estiment que le taux n'est pas assez réduit. Ils réclament une baisse sérieuse et plus de produits concernés, les vêtements par exemple. Certains économistes jugent qu'une telle baisse aurait un effet sur les prix et donc sur le pouvoir d'achat, la relance de la consommation et la croissance. D'autres en doutent puisqu'au final, c'est le commerçant qui décide. Il faut savoir que la TVA est la taxe qui rapporte le plus en France, plus de 170 milliards d'euros en 2018, et qu'un point de TVA réduite en moins, ce serait 2 milliards 600 millions d'euros de perdus pour l'État, d'où la réticence du gouvernement à toucher au taux réduit.
Hélène Filly, pour ce décryptage, c'est clé pour comprendre les propositions des Gilets jaunes. On les retrouve sur franceinter.fr.
8h07, Florence, depuis 2 semaines, on en parle de ces débats nombreux, organisés partout en France.
Partout, vraiment ? Pas en banlieue, ou très peu en tout cas, cette catharsis populaire, on s'en méfie, dans les quartiers périphériques, dans les Yvelines par exemple, à Chanteloup-les-Vignes, la maire n'en organisera pas, et les habitants de toute façon sont sceptiques. Reportage signé Claire Chaudière.
Au pied des immeubles de la cité de la Noé, ce jour-là recouvert d'une fine couche de neige, la plupart des habitants interrogés affirment soutenir les Gilets jaunes et suivre de loin les débats, de loin seulement.
Quand on regarde la plupart des débats, la banlieue elle est un peu mise de côté, je ne vois pas quelqu'un qui porte notre voix.
Saïd travaille auprès des adolescents du quartier.
J'ai l'impression que c'est beaucoup de retraités et au contraire, on les soutient. Mais aucun jeune n'est représenté. J'aurais des choses à dire et j'aurais des choses à défendre.
Et même des propositions à formuler, redistribuer par exemple les revenus parfois indécents dans le monde du foot, lance Saïd. Fatima, elle, suggère que chaque député passe une semaine par an à vivre comme elle.
Venir vivre ma vie. Les gens qui se lèvent à 5h du matin, qui travaillent de nuit, qui ne peuvent pas voir leurs enfants. À la fin du mois, ils sont payés SMIC.
Un débat pourquoi pas, mais ici, personne n'en attendra grand-chose, prévient Baran El-Fakar, l'une des figures associatives.
En banlieue, je pense qu'on n'attend plus trop. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de confiance.
Catherine Arnoux, la maire de Chanteloup-les-Vignes, elle, a pris sa décision.
Moi, maire, je ne fais pas. Si c'est pour que mes habitants se sentent frustrés d'un débat inachevé, alors qu'ils ont déjà le sentiment de relégation depuis des années, moi, je veux pas rajouter de la frustration à leur frustration quotidienne. On joue aux apprentis sorciers, là.
Trop de frustration, trop d'espoir déçu. Les conditions pour des débats sereins et constructifs, conclut l'élu municipal, ne sont pas du tout réunies.
Les policiers et les gendarmes pourront-ils encore se servir de leurs lanceurs de balles de défense demain samedi, acte 11 de la mobilisation des Gilets jaunes. Hier, la CGT et la Ligue des droits de l'homme ont saisi la justice en référé pour les faire interdire. Décision attendue aujourd'hui, mais l'affaire pourrait être renvoyée au Conseil d'État. Alors que l'IGPN, la police des polices est de nouveau saisi après la grave blessure subie par un jeune homme à Toulon il y a 15 jours. Il a perdu l'usage d'un œil. Ça n'était pas un accident. L'incendie qui a fait 2 morts et 25 blessés dans un immeuble de saisonniers dimanche à Courchevel était sans doute volontaire. Christophe Van Ven, les enquêteurs penchent clairement maintenant sur l'hypothèse criminelle.
La thèse accidentelle aurait été refermée par les nombreux gendarmes mobilisés ainsi que par les prélèvements de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Selon nos informations, c'est effectivement la piste de l'acte volontaire qui serait retenue. Très vite après le drame, c'est l'incendie criminel que des témoins et les parents de saisonnières escapées avaient évoqué. Des odeurs de carburant, des traces ont été mentionnées très rapidement. Il y a également eu, quelques jours avant le sinistre, une altercation dans l'ancien hôtel entre 2 personnes, l'une des 2 menaçant de, je cite, « revenir tout cramé ». Reste à savoir si c'est cette dispute qui a provoqué l'irréparable en pleine nuit, prenant au piège une soixantaine de jeunes. La procureure de la République d'Albertville assure qu'elle lèvera une partie du voile ce vendredi après-midi.
Christophe Van Ven de France Bleu Savoie. Un vol Paris-Tunis dérouté vers Nice hier soir à cause du comportement violent d'un homme contre le chef de cabine. Les passagers racontent l'avoir vu prier avant de tenter d'entrer dans le cockpit. Le parquet de Nice a confié l'enquête à la gendarmerie des transports aériens.
8h10, direction Caracas maintenant.
Après l'autoproclamation du président du Parlement à la tête du pays avant-hier, face à un Nicolas Maduro bien accroché sur son siège de président, soutenu par l'armée pour l'instant, et qui met tout sur le dos des États-Unis accusés de fabriquer un coup d'État. Avec nous Benjamin Delisle, il est 2h du matin à Caracas. Benjamin, et la journée qui vient de s'écouler a été étrangement calme.
Oui, étrangement calme, on aurait dit le calme avant la tempête. Ici à Caracas, la vie semble avoir repris son cours normal, du moins en façade. Les Vénézuéliens sont retournés au travail, les commerces ont rouvert, mais au fond, les événements étaient au cœur de toutes les discussions hier dans la capitale. La tension est d'autant plus forte que la situation politique reste très floue. Avec l'autoproclamation de Juan Guaido, le Venezuela vit désormais avec deux présidents. Mais dans les faits, c'est toujours Nicolas Maduro qui gère l'administration du pays. Il est appuyé par l'armée qui lui a réitéré son soutien tout en dénonçant une tentative de coup d'État du jeune opposant, Juan Guaido.
Situation étrange, Benjamin. Juan Guaido, depuis qu'il s'est autoproclamé président hier, qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il est ?
Eh bien, il a donné un signe de vie ce jeudi. Il a donné une interview à la chaîne Univision. Il dit avoir commencé à travailler avec son gouvernement, un gouvernement dont on ne connaît pas la composition pour l'instant, travailler sur l'arrivée d'une aide humanitaire au Venezuela, une aide humanitaire de 20 milliards de dollars pour soulager le poids de la crise économique, de l'inflation et des pénuries. Et sans donner de détails, il a annoncé que des événements seraient organisés dans la rue, sous Ken, à Caracas et partout au Venezuela.
Et lui-même, est-ce qu'on sait où il est ?
Non, on ne sait pas où il est parce qu'il y a une menace d'arrestation qui pèse sur Juan Guaido. Les autorités chavistes l'avaient prévenu. En cas d'autoproclamation, il serait arrêté. Mais pour beaucoup de manifestants d'opposition, ce serait une véritable déclaration de guerre de Nicolas Maduro à l'opposition. Et beaucoup ont dit qu'il serait prêt à sortir dans la rue tous les jours si leur nouveau leader, Juan Guaido, venait à être arrêté.
Benjamin Delisle en direct de Caracas, où Washington a déjà rappelé ses diplomates non essentiels. Donald Trump réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Venezuela demain, mais la Russie qui soutient Maduro s'y oppose. Ils ont eu 48 heures pour faire leur bagage et repenser leur vie à peine reconstruite à Castelnuovo, en Italie. L'un des plus grands centres d'accueil pour étrangers du pays est évacué depuis mardi, comme le veut la nouvelle loi Salvini qui prévoit de fermer tous les grands centres du pays. 530 personnes sont donc progressivement dispersées en autocar un peu partout sur le territoire, parfois sans savoir où. Reportage sur place au micro d'Antonio Gallofaro.
Anthony est au bord de la route devant le centre, il a l'air perdu. Une seule certitude, le Piémont, son car quitte la région de Rome ce matin. L'homme de 27 ans, originaire du Nigeria, est arrivé en Italie et dans ce centre il y a 2 ans.
J'étudiais depuis 5 mois, je devais obtenir une licence, je dois aussi me rendre au tribunal. J'ai fait une demande d'asile, mais le tribunal est à Rome et on me transfère dans le Piémont. La situation est très confuse, on n'a aucune nouvelle, ils ne respectent pas nos sentiments alors qu'ici on était devenu une famille.
Cette famille, eh bien, il est obligé de la quitter. Décision du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, le chef du parti d'extrême droite, la Ligue, applique sa nouvelle loi sécuritaire et veut économiser sur le système d'accueil au détriment de l'intégration. Anthony s'était par exemple engagé dans la paroisse du village, le père José Manuel Torres.
Depuis un moment, il s'engageait bien plus, comme peu de personnes. Disponible quand il fallait nettoyer, couper l'herbe, même s'il ne s'y connaissait pas, ou passer le vernis sur la barrière de l'église. Personne ne l'avait encore fait, si seulement tous mes paroissiens étaient comme ça.
Certains migrants du centre ont déjà un permis de séjour régulier, mais avec la nouvelle loi, ils ne peuvent plus rester dans une structure publique. Ils sont donc livrés à eux-mêmes, comme Nicolas. Le maire du village, Riccardo Travaglini, veut le défendre à tout prix.
Il y a des personnes qui veulent t'héberger, donc dès ce soir, tu auras un logement, ok ?
Plusieurs dizaines d'habitants du village ont déjà mis un lit à disposition. Castelnuovo di Porto, Antonino Gallofaro, France Inter.
Il est 8h14, exit Thierry Henry.
Monaco arrête les frais tout en continuant à lui devoir 2 ans et demi de salaire, mais les résultats du club sont désastreux. Depuis que l'ancien champion du monde est aux manettes, Monaco, avant-dernière de Ligue 1, 11 défaites en 20 matchs, dont la dernière humiliante face à Metz, club de Ligue 2 en Coupe de France. C'est une autre histoire pour Lyon, qualifié à Amiens hier soir pour ses 8e de finale de la Coupe de France. L'OL retrouvera Guingamp. Et dans la série des rencontres improbables propres à cette compétition, Villefranche-sur-Saône, club de national, accueillera le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Enfin, comment se sent-il à une heure et demie du match de sa vie? Lucas Pouille s'apprête à défier l'immense Djokovic pour une place en finale de l'Open d'Australie. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Sur le papier, Fabrice, quelles sont les chances de Lucas Pouille?
Eh bien écoutez, Lucas Pouille va disputer tout simplement aujourd'hui à 24 ans le match le plus important de sa carrière. Alors certains peuvent penser à juste titre que le match le plus important c'est la finale, alors c'est vrai, mais chaque chose en son temps. Il faut tout d'abord franchir l'obstacle Djokovic pour ensuite se donner le droit de rêver. Le problème, et il est de taille, c'est que cet obstacle est imposant. Parce que devant Lucas Pouille, c'est le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, sextuple vainqueur de l'Open d'Australie, le joueur qui depuis 2010 reste sur 27 victoires d'affilée face à des joueurs français en grand chelem. Lucas Pouille ne se présentera pas en victime expiatoire face aux Serbes, un joueur qu'il n'a jamais affronté, soit dit en passant. À Melbourne, Lucas Pouille a retrouvé son meilleur niveau à tel point que Pierre Hugerbert croit que l'exploit est possible.
Moi je pense que Lucas, quand il est bien, quand il est prêt au combat, voilà, il a ses chances contre beaucoup de monde, on l'a vu en quart de finale. Forcément la marche est haute, forcément Djokovic ça va dépendre de son niveau de jeu aussi. C'est le meilleur joueur du monde depuis maintenant un bon bout de temps. Voilà, moi j'espère, en tout cas j'y crois, je sais que lui aussi il y croit, donc c'est pour ça qu'on y croit tous.
Et s'il s'impose aujourd'hui face à Djokovic, eh bien Lucas Pouille réalisera un double exploit, il deviendra le 7e français à atteindre une finale en Grand Chelem, et il sera le premier français depuis 2000 à battre en Grand Chelem un joueur classé numéro 1 mondial.
Fabrice Abgral en direct de Melbourne, et il n'y a pas que Lucas Pouille qui va transpirer pour une place en finale aujourd'hui, les handballeurs français aussi qui affronteront le Danemark à 17h30 en demi-finale des championnats du monde, et puis triple lutz et double boucle piquée, crénom d'un flip pour les patineurs français, c'est fait. Le couple Vanessa James-Morgan Cyprès, champion d'Europe de patinage artistique hier à Minsk, en devançant les Russes, double tenant du titre.
Merci Florence Paracuelos.